Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. Y a-t-il eu une vie sur Mars? La mission ExoMars de l'Agence spatiale européenne est partie ce matin à la recherche d'une réponse à cette énigme encore non résolue. Si tout se passe bien, si et seulement si tout se passe bien, dans 7 mois, à 500 millions de kilomètres de notre atmosphère, l'atterrisseur, nom de code TGO, se séparera de la sonde Schiaparelli. La sonde se mettra alors en orbite autour de Mars pour tenter de détecter des gaz intéressants, tandis que la sonde partira à l'assaut de la planète rouge. Objectif, apprendre aux scientifiques à se poser sur Mars. Une mission qui n'est en fait que le premier volet d'une mission plus ambitieuse et qui a une particularité. Elle a été envisagée au départ par l'Europe et les États-Unis, mais elle a finalement été réalisée par l'Europe et la Russie après la défection de la NASA pour des raisons budgétaires. Alors, conquête de Mars, l'Europe est-elle en train de reprendre la main sur les Américains? Assiste-t-on à une nouvelle guerre des étoiles? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alain Dupas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes physicien, expert, consultant sur les stratégies spatiales, auteur de nombreux livres sur l'espace, dont Nouvelle conquête spatiale, qui est paru chez Odile Jacob. C'était en 2011. Deuxième invité, Richard Edman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur en propulsion spatiale, fondateur et vice-président d'une association, Planète Mars. Je donne le site internet, planète-mars.com. Vous avez copublié un ouvrage, Embarquement pour Mars, la deuxième édition vient d'être rééditée chez A2C Media. Alors, peut-être commencer avec vous, Richard Edman. L'intérêt de cette mission ExoMars, dont j'ai expliqué grosso modo les contours, hein, parce qu'elle est finalement très complexe, est-ce que c'est un intérêt scientifique ou est-ce que c'est un intérêt politique, conquête de l'espace, guéguerre entre les Européens et les Américains?
Non, je crois qu'il faut vraiment voir ça comme une mission d'intérêt scientifique essentiellement, même s'il est vrai que l'Europe cherche quand même à tenir sa place dans les activités spatiales en général, compte tenu de leur importance géostratégique. Mais disons que ces réussites sont nombreuses dans ce domaine, dans le domaine de l'exploration robotique du système solaire en général, ou de l'astronomie. Et ça, c'est une pierre de plus dans ce paysage, mais c'est vraiment l'intérêt scientifique spécifique de cette mission qui attire l'attention.
C'est l'occasion de réaliser des premières scientifiques, cette mission ExoMars?
Oui, il y en a une qui est spécialement important de souligner. C'est la première fois qu'on va forer profondément dans le sol de Mars. En principe, si tout se passe bien, on devrait pouvoir recueillir et analyser des échantillons à 2 mètres de profondeur.
Alors ça, c'est le deuxième volet. Je parlais
du
premier
mission.
Volet qui commence
alors,
aujourd'hui.
Le premier volet comporte à la fois un satellite qui va se mettre en orbite autour de Mars.
Et le fameux grand nez qui va essayer de détecter des gaz.
Et un petit atterrisseur qui est, lui, plutôt technologique, hein, qui a aussi un certain nombre de mesures scientifiques, mais qui est un petit peu accessoire. Ce qui est important, c'est l'orbiteur, donc qui va rester en orbite autour de Mars, et qui, dont la mission est dédiée à la recherche, la détection de traces de gaz, dont le méthane.
Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième dont vous parlez, ce serait l'atterrissage d'un véhicule, d'un engin qui pourrait forer à plusieurs mètres. Et vous dites, vous, que c'est ça l'intérêt principal
de
cette mission.
Pour moi, oui, c'est vraiment ça. Bon, le méthane, c'est très important aussi, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est pour l'instant. Le forage, c'est vraiment nouveau.
Alain Dupas, comment est-ce que vous voyez cette mission? Est-ce que effectivement vous dites son intérêt est essentiellement scientifique ou il y a aussi un intérêt politique?
Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est que cette mission a l'immense avantage de démontrer que depuis plus de 10 ans, l'Europe a décidé de s'intéresser sérieusement à la planète Mars. Parce que auparavant, Mars n'était pas vraiment une des premières priorités de l'Agence spatiale européenne dans le domaine des sciences spatiales. Il y a bien d'autres choses à faire, l'étude du Soleil, l'étude de l'environnement spatial, l'étude des petits corps avec quelques remarquables réussites comme la sonde Rosetta et puis l'atterrisseur Philae, donc pour l'étudier des comètes. Mais Étudier Mars, ça nécessite des moyens importants, ça nécessite une stratégie à long terme. Et la mission dont on parle là, le programme ExoMars, puisqu'il comprend deux volets, eh bien, représente un investissement nettement supérieur aux milliards d'euros. Donc c'est vraiment un énorme effort. Et l'Agence spatiale européenne a dû adopter une politique très innovante pour financer cette mission qui n'est pas seulement de la science, qui est vraiment aussi de l'exploration, hein, en dérogeant à ses règles habituelles pour les programmes scientifiques et en ajoutant un volet vraiment avec de gros investissements d'un certain nombre de pays, dont la France, hein, pour réaliser cette sonde. C'est vraiment, je dirais que c'est un changement d'échelle. Hein. On n'est pas, les États-Unis ont admirablement réussi jusqu'à présent dans l'étude de Mars parce que c'était leur priorité première. Et ça, le reste.
Alors, pour illustrer peut-être ce succès des États-Unis, on peut expliquer qu'effectivement, il n'y a pour l'instant que les États-Unis qui ont réussi à poser un engin sur Mars.
Oui, les Soviétiques du temps de l'URSS ont essayé, n'y sont jamais parvenus. C'est très difficile parce que sur Mars a une atmosphère extrêmement mince et peu dense, et en fait le ralentir un objet pour le poser sur Mars, c'est quelque chose de techniquement très difficile. Et d'ailleurs, c'est cela qui fait l'intérêt, un des deux intérêts de la mission qui est partie aujourd'hui, c'est que on va apprendre, l'Europe doit apprendre à atterrir sur Mars. C'est un démonstrateur. Et ce n'est pas un petit atterrisseur. Hein. L'atterrisseur pèse plus de 400 kilos. C'est-à-dire qu'il est plus gros que les sondes qui avaient été posées par les Américains il y a une dizaine d'années, Spirit et Opportunity. Il est plus petit que la sonde actuelle qui est Curiosity. Il est entre les deux. Et c'est donc vraiment remarquable que l'Europe s'attaque à ce problème. Maintenant, on peut comprendre qu'on fasse d'abord une démonstration parce que dans l'étape suivante, on va poser un rover, un petit véhicule qui serait quelque chose de très complexe. Perdre la mission serait terrible. Donc, on apprend aujourd'hui et en 2018 ou 2020, lorsque le deuxième volet se déroulera, on posera cet atterrisseur, ce rover, qui sera équipé effectivement pour forer le sol, procéder à des expériences et effectivement, malgré tout, le seul nom ExoMars, exo ça vient exobiologie, la biologie extraterrestre, eh bien, effectivement, c'est aussi la première mission dans l'histoire de l'exploration de Mars qui est vraiment dédiée à la recherche de la vie.
Donc,
comme
ce que
premier
vous nous
objectif.
Dites, c'est lentement, mais sûrement. Richard Edman, il y a un mot qui est revenu dans ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est compétition. Vous ne voyez pas de compétition aujourd'hui spatiale dans la course vers Mars entre les Européens et les Américains. Les résultats sont partagés. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, ces différentes missions?
C'est un thème qui, je dirais, ne m'intéresse pas beaucoup par rapport aux autres enjeux. En ce qui concerne l'exploration scientifique, je reviens d'ailleurs sur ce qu'a dit Alain Dupas. Il y a un mot important qu'il a employé, qui est exploration. Je pense qu'effectivement, dans cette aventure martienne qui se déroule actuellement, il faut bien parler non pas de science, mais d'exploration scientifique. C'est-à-dire qu'on fait de la science, mais en même temps, on fait de l'exploration. C'est-à-dire qu'on découvre un nouveau monde. Et je pense que vis-à-vis du public, vis-à-vis de notre civilisation en général, c'est très important. Donc, compétition, oui, il y a toujours un peu de compétition, même en science, on le sait bien, les équipes de scientifiques qui travaillent sur n'importe quel thème, que ce soit en biologie, en géologie ou n'importe quoi, sont toujours un peu en compétition. Ils se tirent la bourre, comme on dit, ils essaient d'arriver les premiers. Mais en même temps, ils se rencontrent, ils échangent des données, ils se rencontrent dans des séminaires, il y a des échanges d'étudiants, etc. Donc, je crois que c'est pas du tout contradictoire de réaliser que compétition et coopération se jouent en même temps, en fait. Hein? Et pour ce programme-là, vraiment, c'est pas le cas. On ne dirait pas la même chose dans le cas de programme de lanceurs, par exemple, où là, il y a derrière des marchés commerciaux à la clé très importants.
Alain Dupas, qu'est-ce qui ferait que cette mission est un succès? Je disais au début, évidemment, il y a toujours cette question, est-ce qu'on va trouver de la vie sur Mars? Est-ce qu'on va trouver les preuves d'une vie antérieure? Est-ce que si on n'a pas de réponse, ça veut dire que c'est un échec?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on apprendra beaucoup de choses sur Mars, sur son atmosphère. C'est quand même, si le satellite donc, qui va être mis en orbite autour de Mars, qui va mettre d'ailleurs assez longtemps à rejoindre son orbite définitive et à commencer son travail, et il fera plus d'un an pour cela, ce satellite est équipé d'instruments extrêmement sophistiqués pour mesurer la présence de gaz à l'état de trace vraiment dans l'atmosphère. Il y a deux instruments qui vont procéder à cette étude, et il s'agit de rechercher en particulier un gaz, le méthane, qui, dans l'atmosphère terrestre, a une seule origine, c'est une origine biologique. Alors, on connaît d'autres mécanismes qui peuvent produire du méthane, mais sur la Terre, le mécanisme qui domine pour la création de méthane, c'est vraiment la vie. D'autre part, le méthane est un gaz...
Donc, concrètement, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, si on trouve du méthane, d'après nos connaissances scientifiques, ça veut dire qu'il y a eu de la vie avant.
Non,
c'est ça?
Mais ça veut dire que c'est... Non. Je crois qu'il y a un point très important.
Les conditions de la vie étaient là.
Ça ne serait pas simplement qu'il y a eu de la vie avant. Ça voudrait dire qu'il y a de la vie maintenant.
Non, en fait, il y a quand même deux interprétations. C'est d'ailleurs bien expliqué par les responsables scientifiques de la mission eux-mêmes. L'orbiteur, va rechercher du méthane. Bon, s'il n'en trouve pas, la question est close. Parce que, comme vous disiez, c'est très sensible comme mesure. Mais s'il en trouve, ils vont à ce moment-là essayer de déterminer si c'est d'origine biologique ou d'origine géochimique. Et pour ça, ils vont regarder s'il y a d'autres gaz à l'état de trace. Ils se disent, par exemple, si on trouve aussi des gaz de soufre, on pensera plutôt à une origine géologique, parce qu'on sait que les volcans, s'ils dégagent du méthane, devraient dégager aussi des gaz soufrés.
Alors, je vous repose ma question. Oui. Du coup, qu'est-ce qui ferait que ce serait un succès? C'est de trouver du coup des traces de gaz, ou est-ce que c'est d'ores et déjà un succès si on arrive à poser l'engin et si le nez arrive à être en orbite autour de Mars?
C'est un succès si les expériences qu'on a prévues de faire fonctionner fournissent des résultats. Mais quels que soient les résultats, hein. Si on trouve pas de méthane, il faudra se rendre à l'évidence, on s'est trompé jusqu'ici, il y en a vraiment pas. Et si on en trouve, évidemment, la question, c'est plus intéressant, bien entendu. Mais c'est pas pour ça que c'est un échec. On est devant des faits. Le scientifique s'intéresse à des faits. Hein. Il s'intéresse pas à des rêves. Ça, c'est les utopistes. Alors moi, je suis un peu les deux à la fois. Mais un vrai scientifique, il s'intéresse à des faits, à des hypothèses qu'il veut tester.
Alain Dupas.
Je veux dire que si on attache autant d'importance au méthane, c'est parce qu'il y a eu, en particulier dans les observations conduites depuis la Terre, des mesures qui ont intrigué les scientifiques. Et il y a eu aussi des mesures faites par, je pense que c'est Curiosity, des mesures qui semblent montrer qu'il y a eu une espèce de bouffée de méthane dans la région où se trouvait la sonde. Alors, un point qui est important, c'est que le méthane, c'est pas quelque chose qui reste dans une atmosphère. C'est quelque chose qui est détruit très vite. Donc, si il y a du méthane, eh bien, il faudra, si on en trouve, mais on a quand même, on serait pas lancé dans une telle expérience si on n'avait pas, justement.
De bonnes chances d'en trouver.
Non, si on n'avait pas, c'est comme une enquête policière. On a un premier indice. Alors maintenant, on approfondit l'enquête. S'il y a du méthane, il faudra effectivement clarifier, essayer de comprendre si c'est une origine, je dirais, non vivante, hein, ou si c'est une origine vivante. Si c'est une origine vivante, ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie dans le passé. Ça veut dire qu'il y a encore de la vie sur Mars. Et c'est ça qui est très important. Cela étant, inversement, si on ne trouve pas de méthane, ça ne voudra pas dire qu'il n'y a pas eu une vie passée ou même une vie récente. Je veux dire, vous savez, pour arriver à conclure définitivement, vous trouvez la vie. Je sais pas, Curiosity, photographie, soudain, il voit une cellule, quelque chose, le problème est résolu. Sinon, les recherches vont se prolonger pendant des dizaines d'années et certainement jusqu'à l'établissement d'une base sur Mars, comme dans le film Seul sur Mars, où on aura vraiment à ce moment-là, sur la planète, des laboratoires très sophistiqués pour faire des recherches sur ce monde qui est immense. Mars est aussi vaste et varié, aussi vaste que l'ensemble des continents terrestres.
Hein. Donc au fond, l'objectif de cette mission, à terme, ou de ces débuts de mission, c'est d'envoyer des hommes sur Mars, Richard Edman ?
C'est pas l'objectif, c'est une motivation. Cette recherche de biologie ou de pré-biologie est une motivation forte, essentielle, effectivement, pour envoyer des équipes scientifiques sur Mars.
Et ça, on a une idée d'un délai, quand est-ce qu'on pourrait envoyer des hommes sur Mars ?
On en a parlé tout à l'heure, c'est une question de décision politique, c'est de l'ordre de 20-25 ans, normalement, sans programme crash. Un programme qui se déroulerait dans le cadre des budgets actuels, ça pourrait demander une vingtaine d'années.
Et alors la décision politique, elle va être plutôt du côté américain ou du côté européen ? Les moyens sont plutôt ceux de la NASA, alors
oui,
n'est pas ?
Non, mais c'est évident. Aujourd'hui, si les Américains n'y vont pas, on ne le fera pas. Hein, parce que il y a un rapport 6 entre les budgets de la NASA et de l'ESA.
Alain Dupas ?
En fait, d'une certaine manière, ce qui est aussi nouveau, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de prendre une grande décision politique, parce que tous les ans, la NASA dépense à peu près 8 milliards de dollars dans les vols habités, et une bonne partie de cet effort est d'ores et déjà destiné à préparer la future mission martienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une certaine manière, la décision au niveau de l'agence spatiale a déjà été prise de faire de Mars le prochain grand objectif. Ce qu'il faut simplement, c'est que le nouveau président, quand il sera élu, le nouveau congrès, quand il sera lui aussi élu, eh bien, poursuivre le financement de la NASA à son niveau actuel. Mais à l'intérieur de la NASA, le programme est en route. Ça fait 10 ans que le programme est en route.
Et est-ce que la NASA aura besoin de l'Europe ?
Oui,
pour le faire.
Oui, de toute façon, besoin, c'est, si vous voulez, il s'agit toujours, c'est comme aujourd'hui, vous avez autour de la Terre un objet qui s'appelle la Station Spatiale Internationale, qui est l'aboutissement du plus grand projet technique international jamais entrepris. Et dedans, vous avez les États-Unis qui ont le leadership, mais vous avez l'Europe qui a un rôle important. Vous avez le Canada, le Japon et la Russie. Donc, l'exploration de Mars, disons, tout le monde admet qu'il faut qu'il y ait un leader, mais ça sera fort. Il y aura un appel à la coopération internationale. Le prochain président des États-Unis probablement prendra acte du fait que le programme est en cours. Il a quand même été annoncé par le président Obama en 2010. Le prochain président prendra acte de cela, prendra acte aussi de la fin qui approche de la Station Spatiale Internationale et appellera à une coopération internationale pour envoyer des hommes sur Mars. C'est naturel. On est passé d'une compétition extrêmement forte entre deux puissances militaires dans les années 60, 70, 80, à maintenant un monde qui est un monde de coopération, puisque même dans la Station Spatiale Internationale, vous avez à la fois la Russie et les États-Unis. Alors le seul pays qui, pour l'instant, joue vraiment une carte à part, c'est la Chine. Et la Chine, aujourd'hui, s'oriente plutôt sur la Lune. Mais on est quand même à l'aube d'une grande... Si vous voulez, on a eu l'impression à un moment qu'après Apollo, c'était fini. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au contraire, on est reparti dans des grands programmes d'exploration humaine, avec la Lune, qui sera de toute façon une étape sur la route de Mars, même pour les États-Unis, qui est un objectif pour la Chine, et l'Europe fera partie de cette aventure. Et ce qui vient de se passer aujourd'hui avec le lancement de cette première sonde ExoMars, eh bien, c'est que l'Europe démontre sa volonté de faire un effort important dans ce domaine.
Et d'y participer à la conquête de Mars. Merci beaucoup à nos deux invités. C'est déjà la fin de cette émission. Merci donc à Richard Edman, qui est ingénieur en propulsion spatiale, fondateur et vice-président de l'association Planète Mars, planet-mars.com. Je signale le dernier de vos ouvrages, qui est un co-ouvrage, Embarquement pour Mars, chez A2C Média. Merci Alain Dupas, physicien, expert et consultant sur les stratégies spatiales, auteur de la nouvelle Conquête spatiale, chez Odile Jacob, paru en 2011. Merci également à Florence Ponce, décidément, et Valentin Vanneur. On se retrouve demain pour un débat sur la réforme du Code du travail. Tout de suite, c'est le journal en français facile.